Alors aujourd'hui, nous parlons du livre de Samuel. Alors si vous avez votre Bible, peut-être qu'après les livres des juges, vous avez le livre de Ruth et non pas celui de Samuel. Et peut-être que vous trouvez que c'est surprenant qu'on saute le livre de Ruth. On se dit, mais quelle misogyne, pourquoi sauter Ruth? Oui.
Oui.
Exactement.
C'est...
Mais oui. Il y a une incohérence. Il y a absolument une incohérence. C'était précisément ce que je voulais signaler. C'est-à-dire que pour ce cours, nous suivons l'ordre traditionnel de la Bible hébraïque. Le livre de Ruth dans vos Bibles, qui est après le livre des Juges et avant le livre de Samuel, en fait, suit l'ordre traditionnel des Bibles chrétiennes, notamment grecques. Latine aussi, j'imagine, il faudrait vérifier, je ne suis pas spécialiste de latin, où effectivement l'ordre des livres est différent. Donc ça, on se rend bien compte que l'ordre des livres dans la Bible, il a été fixé tardivement, et l'ordre n'a pas été le même selon les communautés. Dans les communautés juives, on a fini par se mettre d'accord, dans les communautés chrétiennes, pas forcément, il y a des traditions qui se sont développées. Et c'est vrai qu'en Occident, l'ordre des livres qui s'est développé traditionnellement dans le christianisme, bah, c'est celui que vous avez dans votre Bible second, par exemple, où après les juges, vous avez Ruth, et ensuite vous avez Samuel. Alors ça a un sens de placer Ruth ici, puisque le premier verset de Ruth dit « Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays ». Donc le livre de Ruth s'inscrit dans le contexte historique des juges. Donc ça a un sens de dire « Ah tiens, le livre de Ruth, je vais le mettre ici ». D'un autre côté, dans le canon hébraïque, dans la Bible hébraïque traditionnelle, le livre de Ruth fait partie d'un groupe de livres qu'on appelle les Megillot, littéralement les rouleaux, les cinq rouleaux, où vous avez Esther, également d'autres, etc. Donc, il est situé après. Donc, moi, j'ai choisi de suivre l'ordre du canon hébraïque. Alors, ce qui est surprenant, c'est que les traductions récentes de la Bible, comme la version seconde, par exemple, sont faites à partir de l'hébreu. Et non pas à partir du latin. Alors que pendant très longtemps, les traductions françaises étaient faites sur le latin, les traductions chrétiennes disaient, bah, écoutez, voilà, nous traduisons à partir de la Vulgate, la traduction latine de référence. Chez les protestants, on s'est dit, ah, mais non, on va casser du catholique, donc on ne va certainement pas traduire à partir du latin, on va traduire directement à partir de l'hébreu. Sauf qu'on les prend la main dans le sac, ils traduisent à partir de l'hébreu, mais ils gardent l'ordre des livres qui est traditionnel dans la tradition chrétienne. Et il n'y a pas que ce type d'incohérence-là. Même les noms propres, la plupart des noms propres, en fait, dérivent non pas de l'hébreu, mais du grec. On va parler de Samuel. Le fait d'appeler Samuel comme ça, Samuel en français, c'est via le grec et via le latin. En hébreu, c'est Shmuel. Donc, il faudrait l'appeler Shmuel et pas Samuel. Il y a d'autres exemples comme ça où on voit bien qu'en réalité, les noms propres arrivent en français via le grec et le latin et non pas directement à partir de l'hébreu. Donc d'un côté, on fait l'effort de repartir de l'hébreu. On dit « Ah oui, on va traduire à partir de l'hébreu », mais en même temps, on garde une certaine tradition chrétienne. En tout cas, aujourd'hui, nous ne parlons pas de Ruth. Rassurez-vous, on en parlera. Point de misogynie chez moi. J'aurai grand plaisir à vous en parler plus tard. Le livre de Samuel. Alors c'est pareil, dans vos Bibles, vous avez premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel. Cette distinction en deux livres est artificielle. En réalité, il n'y en a qu'un seul. Dans la tradition hébraïque, il n'y a qu'un seul livre, c'est le livre de Samuel. Point. On l'a scindé en deux, à mon avis, pour des raisons purement matérielles. C'est que faire un rouleau qui contienne un et deux Samuel, on va dire ça fait trop gros, on va le scinder en deux. Je pense que c'est des histoires toutes simples qui ont fait que finalement ça a été scindé en deux livres. J'ajoute même que, puisqu'on parle de la tradition grecque, dans la tradition grecque, en réalité, il n'y a qu'un seul gros livre qui regroupe Samuel et Roi. Dans vos traductions françaises, vous avez 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Roi qui se suivent. En fait, ces quatre livres n'en font qu'un dans la tradition grecque. Alors ils sont scindés en quatre pour des raisons probablement matérielles encore. Donc ce sont les livres des règnes, c'est comme ça que ça s'appelle en grec. Donc vous avez le premier livre des règnes, le deuxième livre des règnes, le troisième livre des règnes, le quatrième livre des règnes. 1, 2, 3, 4. Les deux premiers livres des règnes, c'est 1 et 2 Samuel. Les troisième et quatrième livres des règnes, c'est le premier et le deuxième livre des rois. Donc c'est juste pour vous signaler que cette nomenclature, cette numérotation, montre bien qu'en fait, il faut les considérer dans leur ensemble. En fait, ces quatre livres-là n'en forment qu'un. C'est le livre des règnes, précisément, c'est-à-dire que ce sont les livres qui couvrent toute la période monarchique. Grosso modo, c'est un demi-millénaire. Ça commence avec David et ça se termine avec l'exil à Babylone. Donc on part du 11e siècle avant notre ère et ça se termine au début du 6e siècle avant notre ère. Donc, vous voyez, vous avez grosso modo un demi-millénaire qui est ce qu'on appelle la période monarchique du royaume d'Israël et qui sera très vite scindé en deux royaumes, le royaume d'Israël au nord à Samarie et le royaume de Judée ou de Juda au sud à Jérusalem. Et donc ces quatre livres, plutôt ce livre, ce quadruple livre, couvre toute cette période, ce demi-millénaire. Donc il a été scindé en deux dans le canon hébraïque et encore à chaque fois en deux pour des raisons, à mon avis, matérielles. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc au premier livre de Samuel, qui est finalement qui marque le début, qui raconte la naissance de la monarchie en Israël. C'est le but du livre du premier livre de Samuel. Alors du coup, pourquoi l'appeler le livre de Samuel ? Parce que le personnage principal des premiers chapitres, c'est Samuel. Mais c'est loin d'être le personnage principal de toutes des 500 ans, du demi-millénaire qu'occupent les quatre livres. À vrai dire, il est là que les premières années. Et même si on scinde en deux, d'un côté 1 et 2 Samuel, et puis ensuite 1 et 2 rois, si on prend 1 et 2 Samuel, dans l'ensemble, le personnage principal, c'est David. C'est lui le grand roi, le premier vrai roi. C'est pas tout à fait le premier roi, mais techniquement, c'est pas le premier, mais c'est le premier vrai roi à régner à Jérusalem sur l'ensemble de tout le peuple, etc., etc. Donc, il faudrait appeler ça le livre de David, à la limite. Mais pas le livre de Samuel. À vrai dire, Samuel meurt avant même la fin du premier livre de Samuel. Donc dans le deuxième livre de Samuel, il n'y a même pas le Samuel, il est mort depuis longtemps. Donc, vous voyez les problèmes que ça pose. Alors n'allez surtout pas dire que c'est Samuel qui a écrit le livre de Samuel, bien évidemment, puisque le pauvre meurt même avant même la fin du premier livre de Samuel. Donc ce sont les noms, quand on attribue des livres à des personnages, ce ne sont pas parce qu'ils en sont l'auteur, c'est tout simplement parce qu'on considère que ce sont soit des personnages principaux, des personnages majeurs, etc., etc. C'est comme quand on dit que le Pentateuque, ce sont les livres de Moïse ou la loi de Moïse, etc., parce que Moïse est le personnage principal, mais ça ne veut pas dire que Moïse a écrit quoi que ce soit. Donc le premier livre de Samuel que nous regardons aujourd'hui s'intéresse à la mise en place de la monarchie. De ce point de vue-là, il s'inscrit directement à la suite du livre des juges. On a vu la semaine passée que le livre des juges, finalement, décrit cette période un petit peu désorganisée, où le peuple est arrivé en Terre Sainte, il s'installe, Josué est mort, et puis il n'y a pas encore de roi. Et on voit ce cycle infernal du peuple qui désobéit, et qui du coup est assujetti aux ennemis, et qui du coup implore Yahvé, qui envoie un sauveur, un juge, et finalement qui délivre le peuple, et puis le peuple qui devient rapidement infidèle. Et ça recommence. Et on a vu même ces derniers chapitres, dans les derniers chapitres, où il y avait ce refrain qui disait, voilà, en ces jours-là, vous savez, voilà, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui convenait. Et ça revient à plusieurs reprises, chapitre 17, verset 6, chapitre 18, verset 1, en ces jours il n'y avait pas de roi en Israël, chapitre 19, verset 1er, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chapitre 21, verset 25, le dernier verset du livre des juges, en ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui convenait. Et donc, on anticipe le livre des juges a pour but de nous dire, regardez, c'est vraiment la pagaille quand il n'y a pas de roi. Alors on enchaîne et le livre de Samuel va nous dire, eh bien voilà comment on a établi un roi. Donc, de ce point de vue-là, Samuel, finalement, est la charnière, c'est la jonction entre cette période des juges et puis la période du livre des rois. Samuel lui-même va exercer des fonctions de juge. Ça va être le dernier grand juge en Israël, et c'est lui qui va établir la royauté. Alors, il y aura un premier roi qui va être Saül, et puis ça va mal se passer. Et puis finalement, il va y avoir un autre roi, David. Et lui, ça va être le bon roi, le vrai roi. On peut séparer, disons, le premier livre de Samuel en deux parties. Avant David et David. Les 15 premiers chapitres, donc à peu près la moitié, il y a 31 chapitres dans le premier livre de Samuel, donc c'est pratique, vous pouvez plus ou moins couper en deux. 15 premiers chapitres, c'est avant David. À partir du chapitre 16, David entre en scène. Et donc la deuxième moitié va parler de l'ascension de David au pouvoir. David n'est pas encore roi. Il faut attendre le deuxième livre de Samuel pour que David soit vraiment roi. En fait, Saül meurt à la fin du premier livre de Samuel. Donc si vous voulez, concrètement, vous avez deux sections. La première section, c'est avant David. Vous allez avoir Samuel et Saül. Et puis ensuite, à partir du chapitre 16, David entre en scène et il a son ascension progressive au pouvoir. Il arrive d'abord à la cour royale, etc., etc. Et puis finalement, il va être ennemi avec Saül. Saül va mourir. Et ça n'est qu'au deuxième livre de Samuel que vous aurez vraiment la royauté établie de David à Jérusalem. On y viendra. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la semaine prochaine. Donc, intéressons-nous d'abord à la première moitié du premier livre de Samuel, les 15 premiers chapitres, qui se situent avant l'arrivée de David, donc Samuel et Saül. Là encore, vous pouvez plus ou moins distinguer deux parties dans cette section. Vous pouvez là encore plus ou moins couper en deux parties égales, c'est pratique. Les 7 premiers chapitres nous parlent de Samuel. Le chapitre 8 introduit la question de la royauté. Et puis ensuite, les chapitres 9 à 15 s'intéressent au règne de Saül. Alors parlons de Samuel. Il était une fois. C'est comme ça que ça commence pratiquement. Le livre de Samuel, c'est ça. Ça commence comme ça. On nous raconte l'histoire d'un couple dont l'épouse est stérile. Alors, je vois, ça y est, vous en avez marre, l'histoire des femmes stériles dans la Bible, etc. Mince, quand même, pour faire prendre un peu d'originalité. Désolé, c'est comme ça. Dans la Bible, quand on veut raconter une histoire, on raconte l'histoire d'une femme stérile. Alors, vous avez eu droit à ça dès la Genèse, mais ça continue comme ça. Vous avez eu droit à ça même dans le livre des Juges. Rappelez-vous la mère de Samson. Et là, c'est la même chose. Une femme qui est stérile et qui prie. Et elle demande. Et elle prie, donc chapitre 1er, verset 11. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur des armées, Yahvé des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance, à moi qui suis ta servante, je le donnerai à Yahvé pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Ça vous rappelle quelque chose, le rasoir ne passera pas sur sa tête ? Samson, voilà, c'est ça. Non, je pensais que vous alliez dire moi, mais... Effectivement, Samson, dans Juges, chapitre 13, il y a exactement la même chose, puisque la mère de Samson le consacre à Yahvé, et pour ça, eh bien, notamment, il ne se rase pas la tête. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le prophète Samuel avec son bâton à la main, quand il fait vieux et il a les cheveux qui traînent par terre. Bref. C'est juste que c'est pas comme ça qu'on le représente en iconographie, si vous regardez les peintures médiévales ou à la Renaissance, ou même les illustrations modernes des Bibles. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement, mais on ne représente pas le prophète Samuel avec des cheveux qui traînent par terre. Et pourtant. Et donc, bien sûr, elle est exaucée. À la fin de l'année, elle est enceinte, nous dit-on au verset 20. Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Verset 22, lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai afin qu'il paraisse devant le Seigneur et qu'il reste là pour toujours. Et donc c'est ce qui va se passer. Elle va consacrer son fils, Samuel, non pas simplement en évitant de lui couper la tête, les cheveux, en évitant de lui couper les cheveux, mais en le consacrant au sanctuaire. Et c'est ce qui va se passer au chapitre 2. On a quand même droit au chapitre 2, avant de laisser Samuel grandir au sanctuaire, on a droit à un cantique. Le cantique donc de la mère de Samuel, elle s'appelle Anne, cette femme. Un très beau cantique. Elle prie, elle dit « Par le Seigneur, mon cœur exulte, par le Seigneur, ma corne s'élève, ma bouche s'ouvre toute grande contre les ennemis, etc. » C'est un très beau texte. Elle remercie Dieu pour la réponse à ses prières au verset 5. 5b, elle dit « La femme stérile accouche 7 fois », etc. Verset 6, « Le Seigneur fait vivre et fait mourir, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. C'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche », etc., etc. Donc, c'est une louange à Dieu, et elle parle de la souveraineté de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce cette prière, verset 10b, le Seigneur jugera les extrémités de la terre, il donnera de la puissance à son roi, il élèvera la corne de l'homme qui a reçu son onction. Alors c'est intéressant puisque Anne parle du roi. Elle dit que Yahvé donnera la puissance à son roi. Or, précisément, il n'y a pas de roi. Le livre des juges nous raconte cette période où il n'y a pas de roi. Il n'est pas question pour l'instant qu'il y ait un roi. Il est question de consacrer Samuel. On va en faire un bon petit gars. Mais la roi, il n'est pas question de royauté ici. Donc vous voyez que cette prière, en fait, est encore, elle anticipe la venue de la royauté en Israël. Et plus précisément, elle place la venue de la royauté en rapport avec la naissance de Samuel. Donc ça veut dire que le personnage de Samuel aura à jouer un rôle clé dans l'établissement de la royauté en Israël. Et c'est ce qu'on verra quelques chapitres plus loin, bien évidemment. Alors si vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a évidemment des parallèles entre le cantique d'Anne, ici, dans 1 Samuel 2, et le cantique de Marie, la mère de Jésus, pareil, qui va se voir enceinte et qui va entonner un cantique, etc., etc. Et il y a des reprises dans l'Évangile, on vient piocher dans le cantique d'Anne pour rédiger le cantique de Marie. Alors voilà le jeune Samuel confié au grand prêtre de l'époque, Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie qu'on verra dans le livre des Rois. Le prêtre de l'époque s'appelle Élie, on confie le jeune Samuel à Élie, et il grandit là, et sa maman vient le voir de temps en temps, vous voyez, chapitre 2, verset 19, sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. J'aime bien ça, mon petit fiston, t'as grandi, tiens, regarde, je t'ai fait des nouveaux vêtements parce que les tiens sont trop petits, etc. Enfin bref. Anne a d'autres enfants, verset 21, Yahvé intervint en faveur d'Anne, elle fut enceinte, elle mit au monde 3 fils et 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès d'Yahvé. Samuel, manifestement, est voué à un destin exceptionnel. Il grandit là, dans le sanctuaire, et même, nous dit-on, il dort auprès de l'arche du Seigneur. Regardez au chapitre 3. On nous dit au verset 1er, le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir, et oui, il se fait vieux, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où était le coffre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Donc, imaginez la scène. Samuel est dans le sanctuaire, non pas dans une tente annexe, mais vraiment dans la tente dans laquelle il y a le coffre, l'arche de l'Alliance, avec les tables de la loi, etc., et il dort là, et il y a le chandelier qui brille. Et là, il entend une voix qui l'appelle. Et Samuel se réveille, il entend la voix. Alors, sauf qu'au début, il ne comprend pas. On vient de nous dire que la parole du Seigneur était rare. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas spécialement à ce que le Seigneur parle. Donc, quand il entend une voix, il ne se dit pas « Tiens, ça doit être le Seigneur », puisqu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, il pense que c'est Élie, il va le voir, etc. Plusieurs reprises, il lui dit « Mais non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher, ça recommence, etc. » Enfin bref. Et donc, finalement, il comprend que c'est Dieu lui-même qui lui adresse la parole. Au verset 10, le Seigneur vient, il appelle Samuel. Samuel répond, parle, ton serviteur, j'écoute. Donc Samuel comprend que c'est Dieu qui lui parle. Alors le Seigneur dit à Samuel, je vais faire quelque chose en Israël. Quiconque en entendra parler en restera abasourdi. Et donc il y a cette révélation de Dieu à Samuel. Samuel entend la voix de Dieu, Dieu lui parle, il dialogue avec Dieu. Verset 19, Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Donc, Samuel est considéré comme un prophète. Il a cette fonction, il est prophète, c'est-à-dire il est porte-parole de Dieu. Dieu lui parle, il transmet la parole de Dieu au peuple. Voilà qui met Samuel en scène. Samuel est dorénavant adulte, il est prophète et pas n'importe lequel. Il ne se coupe pas les cheveux. Il est consacré, il a grandi auprès de l'arche, il entretient avec Dieu des rapports uniques. Chapitre 4, on retrouve le cadre plus global du livre des juges, à savoir la guerre. Il y a les ennemis, et parmi les ennemis de prédilection, il y a les Philistins. Au chapitre 4, on a une bataille contre les Philistins l'emportent, et les Philistins repartent avec eux remportent avec eux le coffre de l'Alliance. La fameuse arche de l'Alliance repart avec les Philistins. Les fils du prêtre sont tués à l'occasion de la bataille. Le prêtre lui-même, qui était âgé, verset 15, Élie avait 98 ans, donc il était vieux, le pauvre, il en meurt. On nous dit, à la fin du verset 18, il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Il a une carrière de 40 ans, il meurt, il est âgé. Donc, le grand prêtre est mort, ses fils sont morts, l'arche de l'Alliance est prise par les Philistins, c'est la crise. Que faire? Alors, à vrai dire, les Israélites ne font pas grand-chose. C'est Dieu qui intervient. Les Philistins, chapitre 5, repartent avec le coffre. Ils le mettent dans leur temple, le temple de leur dieu, le dieu Dagon, chapitre 5, verset 2. Alors, Dagon, c'est un dieu agraire. D'ailleurs, en hébreu, Dagan ou Dagon, ça veut dire la céréale, le grain. Ceux qui font le cours d'hébreu, il y a quelques semaines, Eran vous demandait ce que vous aviez pris au petit déjeuner, et certains répondaient, j'ai pris des céréales, et ils demandaient comment on dit céréales avec du lait. Alors on dit c'est Dagan im Chalav, céréales avec du lait. Voilà. Donc c'est un dieu, c'est le dieu céréal, si vous voulez, c'est le dieu des récoltes, c'est le dieu de l'abondance, c'est le dieu de la prospérité. Et là, que se passe-t-il? Donc forcément, ils ont un temple, ils amènent, c'est un trophée, ils le mettent dans le temple. Et le lendemain, que se passe-t-il? La statue du dieu Dagon était tombée face contre terre, nous dit-on verset 4, devant le coffre de Yahvé. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient, détachées sur le seuil, il ne lui restait que le tronc. Ah oui, la statue est tombée, les membres se sont détachés, le voilà en morceaux, par terre, à côté du coffre de l'Alliance. Imaginez le choc pour les Philistins. Alors du coup, ils trimballent le coffre dans une autre ville, ils le transfèrent à Gath. Là, ils étaient à Ashdod, donc ils le transfèrent à Gath. Donc on fait le tour de la patinpole philistine. Les Philistins avaient 5 villes majeures qui sont aujourd'hui, qui correspondent plus ou moins à la bande de Gaza. Hein, si vous regardez aujourd'hui les frontières actuelles, c'est plus ou moins la bande de Gaza, avec un petit peu au-dessus et un petit peu à l'intérieur des terres. Donc, on trimballe le coffre, on en a peur, on l'amène, et rebelote, à chaque fois c'est pareil, il leur arrive des histoires pas possibles, une éruption de tumeur, nous dit-on verset 9, etc. Verset 12, ceux qui ne mourraient pas étaient atteints de tumeurs, etc. Enfin voilà. Bon. Donc, on continue. Chapitre 6, le coffre de Yahvé resta 7 mois au pays des Philistins. Pendant 7 mois, c'est un peu la galère. On ne sait pas ce qu'il faut en faire. Ils finissent par en avoir marre et disent on va renvoyer ce coffre. C'est une véritable malédiction. Donc, ils construisent un chariot. Ils mettent le coffre dessus. Ils tapent sur le popotin des vaches et ils disent allez hop, basta, bye bye, hasta la vista, baby, etc. Au revoir le coffre de l'Alliance. Et les vaches prennent d'elles-mêmes la route de Beth Shemesh. C'est-à-dire qu'elles repartent en territoire israélite. Et croyez-moi, ça ne va pas de soi, puisque depuis chez les Philistins, depuis la côte, la plaine côtière à Beth Shemesh, ça monte, on part dans la montagne. Et quand vous prenez, si vous arrivez à l'aéroport à Tel Aviv et que vous prenez le bus pour aller à Jérusalem, donc il passe à côté de Beth Shemesh, hein, je peux vous dire que le bus, il a du mal. Comme ça, c'est difficile, il est sur la voie de droite, et il a du mal parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a 900 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'à Jérusalem. Alors que quand c'est le contraire, quand on va prendre l'avion, qu'on part de Jérusalem à Tel Aviv, voilà, le bus il va à fond, il est à 120 km/h, mais dans les montées c'est plutôt 70-80, ça dépend si vous avez un bon bus. Bref, donc les vaches, mine de rien, hop, elles prennent le chemin de la montagne, elles sont bien gaillardes. Donc pour eux ils y voient un signe, évidemment pour eux c'est un signe que c'était bien une malédiction et qu'il fallait bien se débarrasser de ce fichu coffre. Et donc les Israélites, en attendant, ils ont été un peu traumatisés. Et ils se disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils viennent voir Samuel. Donc on est au chapitre 7, on arrive au chapitre 7. Et puis Samuel, on se dit, il faut que le prophète Samuel nous dise ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc il rassemble, Samuel dit, verset 5, rassemblez tout Israël au Mitzpah, je prierai le Seigneur pour vous, etc. Donc, il va invoquer le Seigneur. Remarquez au verset 9 que Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste. Donc il fait des sacrifices. Or, qui fait des sacrifices? C'est à qui de faire les sacrifices? Qui a l'autorité de faire les sacrifices? Les prêtres. Donc c'est-à-dire que Samuel est prêtre. Samuel n'est pas simplement prophète, il est prêtre également. Et donc il cria au Seigneur, vers le Seigneur pour Israël, le Seigneur lui répondit, etc. Donc voilà, donc tant mieux. Là, du coup, Dieu donne la victoire. Contre les Philistins. Autrement dit, Samuel joue ce rôle de sauveur, dans, comme dans le livre des juges. Toute cette histoire, tout cet épisode du coffre parti chez les Philistins, etc., vous pourriez faire un couper-coller et le coller dans le livre des juges. À chaque fois, c'est la même chose qui se passe. Le peuple est infidèle. Du coup, les ennemis ont la victoire. C'est souvent les Israélites. Du coup, le peuple vient voir quelqu'un en disant « s'il te plaît, fais quelque chose ». Et puis, cette personne les délivre. Là, en l'occurrence, c'est Samuel. Donc, Samuel fait partie du livre des juges de ce point de vue-là. D'ailleurs, il est juge. Et c'est ce qu'on nous dit, verset 15. « Samuel fut juge en Israël tous les jours de sa vie ». Donc, Samuel est juge. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on nous dit que Samuel était prophète. Hein, c'est ce que nous a dit chapitre 3, verset 20. Ensuite, on nous dit qu'il est prêtre, il fait des sacrifices, et puis on nous dit qu'il est juge. Donc, il a tous les pouvoirs. Vous voyez, il y a, en général, des pouvoirs officiels, il y a les prêtres, c'est le pouvoir sacerdotal officiel, il y a les juges ou les rois, très bientôt, c'est ce qu'on va voir, c'est le pouvoir politique officiel, et puis souvent, il y a un peu le prophète, qui lui est censé être en dehors des circuits officiels, et qui là, un peu, joue les troubles faits, en disant, moi, Dieu m'a dit ceci, etc., etc., et parfois, il remet à sa place, le prophète, il est là aussi pour remettre les prêtres à leur place, remettre les rois à leur place, quand il commence un peu à dérailler. Et là, finalement, Samuel, il est tout. Donc, c'est un peu le super-héros, c'est Superman, c'est Super Samuel. Pour l'instant, il n'est pas encore question de roi. Or, je vous signale que Anne, la mère de Samuel, a bien annoncé la venue de la royauté dans son cantique, et ce, en rapport avec la naissance de son fils. Or, Samuel est vieux, chapitre 8, verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il nomma ses fils juges d'Israël. Donc, manifestement, Samuel n'est pas prêt à nommer un roi. Il dit, bah, moi, je suis vieux, à ma place, mes fils vont être juges, et ça peut continuer comme ça pendant des siècles. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un roi. En fait, c'est là, à partir du chapitre 8, je vous disais tout à l'heure, c'est le chapitre point de bascule où on introduit la question de la royauté. Les gens viennent voir Samuel en disant « Donne-nous un roi qui soit notre juge comme en ont toutes les nations ». C'est le verset 5. Donc les gens viennent voir Samuel en disant « Nous voulons un roi ». Alors pourquoi, en l'occurrence, pour la petite histoire, c'est parce que justement les fils de Samuel, malheureusement, ils ne filent pas droit. On nous dit au verset 3 « Les fils de Samuel ne suivirent pas sa voie, ils avaient un penchant pour le profit, acceptaient des pots de vin et portaient atteinte au droit ». Donc ils sont véreux. Alors, en fait, c'était le même problème avec les fils d'Élie. Vous savez, au début du livre de Samuel, Élie, son prêtre, et ses deux fils sont censés prendre la suite, prendre la relève, et c'est pareil, ils prennent des pots de vin, et les femmes viennent apporter des offrandes, et ils disent, bah, tiens, viens voir, et puis ils en profitent pour coucher avec les femmes, etc. Enfin bref, donc du coup, malheureusement, Élie n'a pas bien su s'occuper de ses fils, et Samuel fait pareil. Samuel, c'est super Samuel, on l'a vu, il est formidable, il sait faire plein de choses très bien, mais il y a une chose que Samuel ne sait pas faire, c'est éduquer ses enfants. Manifestement, on ne peut pas tout réussir, qu'est-ce que je vous dise. Bon. Toujours est-il que du coup, le peuple veut un roi. Alors Samuel n'est pas content, évidemment. Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Parce que finalement, Dieu dit, c'est ce qu'on lit au verset 7, ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Donc, en fait, c'est Dieu qui est le roi. Dieu dit, vous n'avez pas besoin d'un roi, parce que c'est moi qui suis votre roi. Mais le peuple veut un roi. Alors du coup, Samuel essaie de les décourager. Il leur dit, écoutez, voilà ce qui va se passer, voilà, verset 11, les droits du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils, il les affectera à ses chars, etc. Donc autrement dit, il dit, bah voilà, il prendra vos enfants pour les mettre dans son armée, il leur fera labourer ses terres, etc. Verset 13, il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Verset 14, il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, il le donnera aux gens de sa cour. Il prendra la dîme de vos semailles, verset 15, etc. Verset 16, il prendra les meilleurs de vos serviteurs. Verset 17, il prendra la dîme de votre petit bétail. Verset 18, vous deviendrez ses esclaves. Donc, en disant, voilà, vous êtes sûr que vous voulez un roi? Parce que si vous voulez un roi, c'est ça qui va se produire. Il essaie de les décourager. Mais verset 19, le peuple refusa d'écouter Samuel. Tant pis, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Donc, ils veulent faire comme les autres. C'est comme appeler les gamins, mais moi je veux le même. Là, c'est Noël approche. Et alors, c'est ça. Oh, regarde, il a tel je veux le même jeu vidéo. Nous aussi, on veut un roi. Du coup, le Seigneur dit à Samuel, verset 22, écoute-les, tu leur donneras un roi. Ma foi, le peuple veut un roi, on va leur donner un roi. Chapitre 9, vient donc le moment où on va effectivement nommer un roi. Entre en scène ce roi, le roi en question, il s'appelle Saül, verset 2. Il avait un fils nommé Saül, celui-ci était jeune et beau. Aucun des Israélites n'était plus beau que lui, il les dépassait tous d'une tête. Écoutez, c'est le profil parfait. Je ne sais pas pourquoi vous faites cette tête-là. Je crois que c'est quand même le profil parfait du roi, non ? Le peuple veut un roi, on va leur donner un roi. Ils vont avoir ce roi qui va être à la tête de la nation, il va faire comme les autres peuples, il va pouvoir frimer en disant « Regardez, on a un super roi, on va leur donner un super roi, il sera grand, jeune, beau, fort, musclé, etc. Il fera la couverture de tous les magazines. » Et ben oui, non mais c'est ça, c'est le représentant, voilà. Alors on vous raconte l'histoire de la rencontre entre Saül et Samuel. Saül perd ses ânesses, il les cherche et finalement il arrive quelque part, il y a Samuel, etc. Je vous passe l'histoire, vous pouvez la lire vous-même. Finalement, Samuel annonce à Saül qu'il va être roi. Chapitre 9, et Saül répond, verset 21, chapitre 9, verset 21, « Ne suivent pas Benjaminite de l'une des plus petites tribus d'Israël. » Donc la tribu de Benjamin, elle est au-dessus de la tribu de Juda, elle est entre eux, Éphraïm et Juda, c'est un petit peu coincé. « De l'une des plus petites tribus, mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin ? Donc je suis de la plus petite famille, du plus petit clan, de la plus petite tribu, etc. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Saül ne comprend pas. Il dit « Moi, je me vois mal être roi. » Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Quelqu'un qui tient ce discours-là ? Ah oui, Moïse, oui, j'avais pas pensé à lui, plus près de nous, plus petit, la plus petite famille, etc., plus petite tribu. Gédéon. Gédéon tient le même discours, quand Dieu l'appelle, il dit, mais moi, pourquoi moi, je suis la plus petite famille, etc., il est un peu trouillard. Bon. Bref, Samuel oint Saül pour être roi. Chapitre 10, verset 1er, Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Donc, l'onction. On en a déjà parlé. Hein. L'onction, rappelez-vous, on en a parlé dans le Patateuc notamment, déjà dans l'Exode, etc., quand il s'agit du grand prêtre. Hein. Le grand prêtre, on lui verse de l'huile sur la tête, etc. On a expliqué toute la symbolique. L'huile, c'est représente la présence divine elle-même, donc il recouvre. On est censé... Alors, l'onction, attendez, hein, c'est pas juste sur le front, vous savez, là aujourd'hui, maintenant, on touche à peine du doigt avec un petit peu d'huile, éventuellement on fait un petit signe de croix. Bon, chez les chrétiens, évidemment, hein, dans le judaïsme, pensez bien quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, une petite goutte d'huile sur le front, ça suffit. À l'époque, on y va avec la fiole, hein, attention, hein, on est généreux. Et donc ça dégouline, ça recouvre toute la tête, ça coule sur les vêtements. Et l'idée, c'est vraiment d'être complètement recouvert du symbole de cette présence divine. Et cette présence divine, elle est importante. Pourquoi ? Parce que ça rappelle à la personne qui a cette fonction que, bien qu'elle soit à ce poste, bien qu'elle soit qu'elle occupe cette fonction, ça n'est pas elle qui a le pouvoir absolu. Au-dessus d'elle, il y a le pouvoir divin. Et finalement, cette personne est censée être simplement, quelque part, le serviteur, l'ambassadeur, le porte-parole de Dieu. Donc, dans la Bible, on va oindre de la sorte des prêtres, notamment le grand prêtre, qui va occuper le pouvoir sacerdotal, être à la tête du pouvoir sacerdotal, et puis également le roi, qui va donc être à la tête du pouvoir politique. Alors je continue, c'est pas tout, mais maintenant il faut convaincre le peuple que Saül est bien le roi, puisque le peuple demande à Samuel un roi, Samuel choisit Saül, mais Saül est totalement inconnu. Saül, c'est quelqu'un qui fait paître ses ânesses, qui les paume et qui les cherche. Bon, il se trouve qu'il est beau, qu'il est jeune, qu'il dépasse tout le monde d'une tête. Enfin, c'est pas pour autant que tout le peuple l'a repéré. Alors donc, du coup, à la fin du chapitre 10, le peuple de nouveau, hein, le peuple, on rassemble le peuple, et puis il présente Saül, alors on désigne, etc. Bref, par tirage au sort, le pauvre Saül s'est planqué en attendant. On dit, mais où est Saül ? Et puis, verset 22, Yahvé dit, il est caché au milieu du matériel. Donc, il est planqué au milieu dans la tente de la tente matérielle. C'est là que Saül s'est planqué. Et donc, on dit, mais viens, viens, Saül, ne te cache pas. On courut le tirer de là, verset 23, il se tint debout au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Bon, alors, on a compris, hein, au cas où ce n'était pas clair, on rappelle qu'il dépasse tout le monde d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous, celui que le Seigneur a choisi, il n'y en a pas comme lui dans tout le peuple. » Tout le peuple l'acclama en disant, « Vive le roi !» Voilà Saül, roi. Saül va s'illustrer, il s'agit maintenant pour lui de montrer que c'est un bon roi, parce que c'est pas tout, maintenant il est roi, mais est-ce que vraiment il a une légitimité d'être roi ? Dans les chapitres suivants, effectivement, Saül va s'illustrer dans des faits de guerre, notamment contre les ennemis. Là, cette fois-ci, au chapitre 11, il est question des Ammonites. Donc là, on est de l'autre côté. Tout à l'heure, on parlait des Philistins. C'est à l'ouest, au bord de la mer Méditerranée. Les Ammonites, c'est de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté de la mer Morte. Nahash l'Ammonite. Alors, il nous manque quelques versets dans le texte que vous avez ici, chapitre 11, verset 1er. On nous parle de ce Nahash l'Ammonite sans l'introduire. On ne sait pas pourquoi, au verset 2, il veut crever l'œil droit de tout le monde, etc. En fait, il manque quelques versets qui ont été retrouvés dans un manuscrit du livre de Samuel découvert à Qumran, dans la grotte 4 à Qumran. On a un manuscrit hébreu. Il manque, grosso modo, une ou deux phrases. Si vous voulez, on introduit, on explique qui est Nahash l'Ammonite et pourquoi, et qu'est-ce qu'il fait là, et pourquoi, etc. Bref. En tout cas, Saül s'illustre par son courage dans cette affaire-là. Et puis, donc, ma foi, tout semble jouer, tout semble ok. Au chapitre 12, Samuel fait son discours d'adieu. Verset 2, « Maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Moi, je suis vieux, j'ai les cheveux blancs, etc. etc. » Voilà. Donc, il dit, voilà, ça y est, moi, j'ai fait mon boulot, je suis vieux, je prends ma retraite. Grosso modo, Samuel a joué son rôle. Il était là pour faire la transition entre la période des juges et la période des rois. Il a introduit la royauté. Il a oint Saül, comme sa mère, finalement, l'avait prophétisé. Anne, chapitre 2, il était question de l'homme qui a reçu l'onction. Eh bien, voilà, c'est Saül, il est là. Donc, Samuel n'est toujours pas très content qu'ils aient demandé un roi. Hein. Il dit comme ça, verset 17, à la fin du verset 17, « Vous verrez bien que vous avez très mal agi aux yeux du Seigneur en demandant un roi. » Donc, Samuel, il n'a toujours pas digéré le fait que le peuple ait demandé un roi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il a fait son boulot et maintenant, il prend sa retraite. Alors, on se dit, ben voilà, ça y est, c'est la royauté, Saül, et ça commence, et puis Saül va avoir une belle dynastie après lui. À partir du chapitre 13, on nous raconte le règne de Saül. Vous voyez, il a été couronné, il s'est illustré, Samuel prend sa retraite, il y a vraiment eu la passation de pouvoir, si vous voulez, sur le perron de l'Élysée. Maintenant, ça y est, Saül, c'est Saül qui règne. Sauf que les choses vont commencer à mal se passer. Dans les chapitres 13, 14 et 15, qui sont les trois chapitres qui décrivent finalement le règne de Saül, avant l'arrivée de David, eh bien on va voir que coup sur coup, il fait des bourdes. En fait, Saül est maladroit. Saül prend des initiatives qui ne sont pas les siennes. Il va partir à la guerre sans justement interroger le Seigneur. Il va même faire des sacrifices sans interroger le Seigneur, etc. Enfin voilà, il va faire des choses, alors qu'en apparence sont bien, on a l'impression que c'est du bien. Finalement, c'est un homme bien, à un moment donné, par exemple, il prête serment, chapitre 14, verset 24, il dit, verset 24b, « Maudit soit l'homme qui mengera avant le soir, avant que je ne sois vengé de mes ennemis. » Donc pour motiver les troupes, il dit, allez hop, voilà, personne ne mangera tant qu'on n'aura pas remporté la victoire. Ben, c'est pas très malin, parce que précisément, quand on va à la guerre, on a besoin de manger. Alors son propre fils, Jonathan, qui n'était pas là quand il a donné quand il a fait ce vœu, lui, du coup, il court après les Philistins, et puis, à un moment donné, il a faim, il voit du miel, il en mange, il reprend des forces, et du coup, il leur met la pâtée, et il revient en disant, regardez, j'ai mis la pâtée parce que j'ai mangé tous, et Jésus dit, mais malheureux, surtout pas, personne ne devait manger, Saül, ton père, a donné cet ordre, etc., maudit, machin, etc. Du coup, Saül dit, bon, bah, tant pis, hein, celui qui a mangé doit être mis à mort, donc, bah, tant pis, c'est Jonathan, donc Jonathan va être mis à mort. Et les autres lui disent, bon, enfin, c'est pas possible, tu peux quand même pas mettre ton propre fils à mort. En plus, il a remporté la victoire, et puis en plus, bon, voilà, c'était un peu crétin de demander de pas manger, de jeûner. Donc, vous voyez, je vais pas prêcher, mais il y a quand même des applications concrètes. Il y a des gens qui se mettent à jeûner comme ça, hein, des gens qui pensent qu'ils sont très spirituels parce que d'un seul coup, ils vont se mettre à jeûner Bon, moi, je veux bien, mais il y a un temps pour tout, quoi. Et des fois, ce n'est pas le moment de jeûner. Et donc, de la même manière, au chapitre 15, à un moment donné, Saül s'impatiente et il se dit, bon, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas aller? Est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Etc. Bon, pour être sûr que Dieu est avec moi, je vais faire un sacrifice. Et du coup, il fait un sacrifice. Et là encore, il désobéit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Saül a un comportement qui, en apparence, pour être religieux, pieux, pourrait-on dire, il dit, voilà, il fait des sacrifices, il fait ceci, il fait cela, il fait des vœux, il fait, voilà, c'est formidable. En fait, non. À chaque fois, il est à côté de la plaque, et à chaque fois, en fait, il désobéit à la parole du Seigneur. Du coup, Samuel, qu'on croyait définitivement partir à la retraite et peut-être même mort, Samuel revient, et puis il dit, au verset 22, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur ?» C'est une question rhétorique. La réponse vient juste après. Écouter vaut mieux que les sacrifices. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Donc voilà, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être ultra religieux en apparence si finalement, dans ton comportement, tu n'es pas obéissant. Et ça, c'est quelque chose... voilà, si vous prêchez sur ce texte, eh bien, vous pouvez interpeller votre auditoire. Nous, aujourd'hui, en tant que croyants, est-ce que parfois on ne s'enferme pas dans une sorte de religiosité où, en apparence, oui, on est des gens très religieux, très pieux, on fait des vœux, etc., on donne beaucoup d'argent, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Mais finalement, est-ce que derrière, notre attitude est vraiment une attitude qui est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a un cœur obéissant? Et c'est le problème de Saül. Donc finalement, à plusieurs reprises, dans ces chapitres-là, on voit que de façon répétée, Saül désobéit, à chaque fois on dit « mais non », et il réitère. Finalement, la sentence tombe à la fin du verset 23. « Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi, tu ne seras plus roi. » Chapitre 16, on bascule donc dans la deuxième moitié du premier livre de Samuel, je vous ai expliqué. Avant David, les 15 premiers chapitres, à partir du chapitre 16, David entre en scène. Donc le règne de Saül aura été de courte durée. Alors il n'est pas tout à fait mort. Hein. Dans la deuxième moitié du livre de Samuel, David entre en scène, mais ça va se faire progressivement. Il ne va pas tout de suite prendre le pouvoir. Et Saül va mourir à la fin du livre. Donc on a encore, vous voyez, des chapitres 16 à 31. Donc, vous voyez, on a vu les 15 premiers chapitres. C'est avant David. La première moitié, c'est Samuel. Chapitre 8, on veut un roi. Chapitre 9 à 15, Saül. À partir du chapitre 16, David entre en scène. Alors, il faut distinguer deux parties dans ces chapitres 16 à 31. Alors, cette fois-ci, c'est deux parties très inégales. Les chapitres 16 à 18 nous racontent comment David entre à la cour de Saül. C'est comme ça que David entre en scène. Il entre en scène et il arrive à la cour du roi Saül. Et c'est plutôt bien. Et à partir du chapitre 19, c'est là que les choses commencent à se dégrader, dès le chapitre 18, à vrai dire. Les choses commencent à se dégrader. Saül réalise que David commence à être jaloux de David et il se dit « aïe, 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 ce David, c'est un danger pour mon pouvoir, donc je vais me débarrasser de lui. » Et donc, dès le chapitre 18-19, Saül essaie de se débarrasser de David, et ça va occuper toute la fin du livre de Samuel. Ils vont jouer à cache-cache, si vous voulez, ou au chat et à la souris, jusqu'à la mort de Saül, à la fin du premier livre de Samuel. Donc techniquement, David n'est pas encore roi. Il faut attendre le deuxième livre de Samuel pour que David devienne officiellement roi. On attend la mort de Saül. Alors les chapitres 16 à 18, comme je le disais, racontent l'ascension, ou plutôt... Enfin, les tout débuts de David, et en particulier comment il arrive à la cour du roi. Alors, en fait, il y a deux récits. Il y a deux récits différents qui se sont retrouvés combinés. Donc, c'est des phases rédactionnelles. D'ailleurs, si vous regardez la version grecque ancienne, eh bien, vous vous rendez compte, en fait, qu'elle est considérablement plus courte que la version hébraïque. Donc, on a des états antérieurs de ce texte qui sont préservés avant qu'on complète avec certains épisodes, etc., etc. Grosso modo, vous avez deux façons de mettre David en scène. Il y a David musicien d'un côté et David guerrier de l'autre. Voyez ce qui se passe. Au chapitre 16, alors d'abord, on nous raconte d'abord comment Samuel va trouver David pour l'oindre. Vous avez vu l'épisode, comment Samuel a oint Saül. Ben maintenant, il recommence, mais avec David cette fois-ci. Et donc, de la même manière, en fait, Samuel, dont on pensait qu'il était à la retraite et pourquoi pas mort, du coup, il reprend du service. Hop, il faut qu'il reparte avec sa fiole pour... Et du coup, Dieu l'emmène quelque part, etc. Il le conduit et il lui dit, voilà, il faut trouver. Alors, il dit, mais où est, je cherche, machin, etc. Enfin, bref. Alors, le gars, le fameux Jessé, lui montre tous ses fils, etc. Non, c'est pas lui. Et puis, verset 11, donc chapitre 16, verset 11, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors là, c'est tout le contraire de Saül. Vous voyez la différence. On vous dit de Saül qu'il est grand, il est beau, il est fort, et machin, il dépasse tout le monde d'une tête. Et là, David, c'est tout le contraire. Quand on va voir le père, quand on dit à Jessé, fais voir tes fils, Il ne pense même pas à présenter David, parce que c'est le tout petit, c'est le dernier, c'est un gamin, mais il fait pète le troupeau, quoi. Ça ne peut pas être lui. Eh bien si, précisément, c'est lui. Bon, ça n'empêche pas d'être beau, hein. Regardez verset 12, il était roux, il avait de beaux yeux, une belle apparence. Bon, tant pis, hein, ça gâche rien. C'est comme dans tous les films, même si vous voulez une sorte d'anti-héros, il faut quand même qu'il ne soit pas totalement moche. Bon, je sais pas, Daniel Craig, par exemple, dans James Bond, il est quand même très peu crédible. C'est comme, il est pas beau, c'est pas Sean Connery, quand même. Moi, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Mais bon, ils ont quand même pris un gars. Bon, il est musclé, il est quand même... Bon, voilà, il est pas totalement moche non plus, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas Sean Connery. Bref. Donc, on vient chercher David. Et David va entrer en scène à la cour du roi Saül, parce que c'est un musicien, figurez-vous. Saül est tourmenté par un mauvais esprit. Et quand il est tourmenté par un mauvais esprit, eh bien, il faut le calmer. Et on sait bien que la musique adoucit les mœurs. Et donc, on vient lui chercher un musicien. Et ce musicien, c'est David. Un des serviteurs de Saül dit « J'ai vu un fils de Jessé, le Bethlémite, qui s'est joué. C'est aussi un combattant, un vaillant guerrier. » Alors, ça, on ne sait pas pourquoi. « Il parle bien, c'est un bel homme, le Seigneur est avec lui. » Alors, ce verset-là vous décrit les caractéristiques du héros. Il y a tout un chapitre dans un livre que j'ai édité qui s'appelle « Le jeune héros », donc volume 250 dans la collection Orbis Biblicus et Orientalis. C'était un colloque qu'on a fait sur la thématique du jeune héros. Et donc, il y a un des chapitres qui est consacré à ce verset et qui explique comment ce verset est en fait un résumé de toutes les caractéristiques héroïques du Proche-Orient ancien. En réalité, ce qui intéresse dans ce passage-là, c'est le fait que David est musicien. Verset 23, « Lorsque le souffle de Dieu était sur Saül, David prenait la lyre et en jouait. Saül respirait alors et se trouvait mieux. Le souffle mauvais s'éloignait de lui. » C'est ainsi que David se retrouve à la cour de Saül. Donc, David se retrouve comme musicien. Et là, c'est le personnage de David, poète, psalmiste. La plupart, la majorité des psaumes seront à David. À chaque fois, dans la plupart des psaumes, on dit « psaume à David ». Ou dans vos traductions françaises, parfois on dit « psaume de David ». En hébreu, c'est « les David ». En grec, c'est du datif. Enfin bref, donc moi, je préfère traduire « psaume à David » que « de David ». À mon avis, ce n'est pas lui qui les a écrits. Mais bon, c'est pas grave. Donc, David est cette figure par excellence, du musicien, du poète, il est jeune, vous voyez, il a ce côté un peu, voilà, éphèbe, voilà, c'est un jeune garçon, il est, bon, voilà. C'est pas le gros gars baraqué, c'est pas l'armoire à glace comme Saül. Donc ça, c'est une des façons pour David d'entrer en scène. Et de là, vous pourriez sauter directement jusqu'au chapitre 18 et 19, etc., etc., où... Saül veut faire mourir David, et il essaie de faire mourir David, notamment quand David est là et que David joue de la musique pour lui, et Saül s'énerve, et plusieurs fois il prend sa lance, et David est obligé de s'esquiver, il est rapide comme ça, et il s'en fout un peu pour qu'il se prenne la lance, et il est obligé de s'enfuir avec sa lyre. Mais entre les deux, vous avez le chapitre 17, et le chapitre 17, c'est Goliath, David et Goliath. Et là, donc vous êtes dans un tout autre contexte, où c'est encore les Philistins, qui sont là, qui narguent les Israélites, et cette fois-ci, ils ont un gros gaillard qui s'appelle Goliath, dont on nous dit qu'il fait une taille, il est immense, il doit faire genre 2,50 m de haut, je sais pas quoi, enfin bref. Donc, évidemment, il dit, envoyez-moi votre plus fort guerrier, etc., on va faire sur le ring, là, on va se battre tous les deux, on va voir qui gagne. Évidemment, personne n'ose y aller. Et là, d'un seul coup, il y a David. Alors, il faut oublier l'histoire où David est à la cour du roi, puisque là, dans cet épisode-là, on retrouve le David berger, qui d'ailleurs apporte à manger à ses frères. Ses frères sont à l'armée, lui-même est trop jeune pour être à l'armée, c'est un gamin. Donc, son père dit, va apporter, etc., etc., à manger à tes frères. Et on réintroduit tout le monde. Hein. Regardez chapitre 17, verset 12. Il y avait Jessé qui avait 8 fils. Les 3 fils aînés étaient partis. Voici le nom de ses 3 fils, blablabla. Bla, bla. Le fils, Jessé dit à son fils David, prendre. Donc, on réintroduit, on dit qui est Jessé, on dit quels sont les noms des fils de Jessé, etc. Alors qu'en principe, il n'y a plus besoin, puisqu'on en a déjà parlé, puisqu'on a même dit déjà que c'était le dernier qui avait été choisi pour être roi. Donc, vous voyez bien que quand vous lisez ces passages-là, n'ont pas été rédigés à un moment où les passages qui précèdent avaient été rédigés. Il faut un petit peu faire table rase de ce qui précède. On recommence l'histoire, on recommence l'histoire de Jessé, qui avait des fils, qui sont à l'armée, et David leur apporte à manger, et c'est là qu'il voit Goliath qui nargue tout le monde, et que David dit d'un seul coup, mais attendez, moi je vais y aller. Et David n'est qu'un jeune garçon, lui dit, prends l'armure, il s'en sort pas parce qu'il nage, imaginez, il nage dans une espèce de grosse armure, et il sait même pas manier l'épée, elle est trop lourde, il n'arrive pas à la soulever. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, grosso modo, c'est ça. Finalement, il prend sa petite fronde, il prend ses cailloux, et schlac, il envoie un caillou en pleine tête. Et du coup, de loin, comme ça, il arrive à tuer Goliath. Donc, il vise bien, il arrive à tuer Goliath. Alors il y a des versets forcément, par exemple le verset 47, chapitre 17, verset 47, « Toute l'assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur, c'est lui qui vous a livré à nous, etc. » Bon, ça c'est des trucs, des phrases connues que vous retrouvez dans les psaumes. Enfin bref, toujours est-il que les Philistins ont la trouille, à la fin du verset 51, « Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. » Verset 54, « David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem. » C'est un trophée, hein. Saül voit ça, il dit, tiens, c'est qui ce David, de qui ce garçon qui est fils? Alors, là encore, si vous pensez que David est à la cour de Saül et que David joue la musique, mais Saül connaît bien David, ils se connaissent, puisque... Donc, vous voyez l'incohérence narrative si David est de toute façon, depuis un certain temps, à la cour de Saül. Là, il faut oublier l'histoire de David à la cour de Saül. Et donc, alors, dit, tiens, mon garçon, etc., il lui parle, verset 58, ça lui dit, mon garçon, de qui es-tu le fils, blablabla, enfin bref. Et du coup, David se retrouve dans l'entourage de Saül, cette fois-ci, comme guerrier. Donc, vous voyez, vous avez deux récits parallèles qui racontent chacun à sa façon comment David s'est retrouvé à la cour de Saül. Dans un cas, on nous raconte l'histoire que c'est un musicien, etc. Dans un autre cas, il fait cet exploit vis-à-vis de Goliath. Et si vous lisez ces deux récits, vous voyez bien que les deux récits sont indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun des deux qui ne construit sur l'autre. Et même, d'une certaine manière, ils sont un peu incompatibles parce que comment il peut dire « Ah tiens, mon garçon, comment t'appelles-tu » alors qu'ils se connaissent bien puisqu'il est censé avoir joué. Donc, ce sont deux récits distincts qui cherchent à dresser deux portraits de David qui ne sont pas incompatibles. Hein. On peut avoir à la fois le David de roi, guerrier, le David de musicien, etc. Bon. En tout cas, David s'illustre doublement à la cour du roi Saül, et du coup, il va même épouser la fille de Saül, la fille Michal. Alors, sauf que Saül commence déjà à se méfier de David, il se dit, oulala, j'ai de la concurrence, et dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on fait, quand on voit des concurrents, on les égouille, comme ça on est tranquille. Alors du coup, il lui tend un piège, il lui dit, mais t'as pas d'argent, tu veux épouser ma fille, mais normalement elle devrait épouser un roi, quoi, hein, c'est comme ça que ça se passe, les familles royales entre elles, les princes, les machins, etc. Toi t'as pas d'argent, mais allez, puisque c'est toi, t'as qu'à me rapporter 100 prépuces de Philistins, ça fera l'affaire. Et en fait, il se dit, il ne va jamais réussir à abattre son Philistin, il va se faire tuer, comme ça je serai débarrassé de David. Et donc il l'envoie pour se faire tuer. Sauf que ça ne marche pas, et David revient, et du coup il peut épouser la femme. Dans la Bible, c'est souvent comme ça, quand on veut tendre un piège à quelqu'un, on utilise les femmes. Rappelez-vous la dernière fois avec Samson, etc. etc. David lui-même, un peu plus tard, il sera avec Bethsabée, du coup, il voudra faire tuer son mari, etc. Il l'enverra à la guerre. Enfin, ouais. C'est toujours des histoires comme ça. Dès qu'il y a des histoires, il y a souvent les femmes. Ouais. Enfin, en l'occurrence, c'est pas Michal qui est fautive. Hein. Donc, voyez ce qui se passe, voyez les tensions entre les deux. Et du coup, Saül, à partir de là, Saül va essayer de tuer David. Et les chapitres qui suivent sont des histoires où on joue à cache-cache, et il y a du copier-coller. On ne va pas tout lire, après ça se lit très bien, vous n'avez pas besoin de moi pour les lire. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent. Par exemple, vous lisez chapitre 21, verset 11, on lit « David s'enfuit pour échapper à Saül, il arriva chez Achish, roi de Gath ». Bon, et bien en fait, si vous allez au chapitre 27, au verset 2, on nous dit David et les 600 hommes qui étaient avec lui passèrent chez Achish, roi de Gath. David s'installa chez Achish, etc., etc. Et c'est pareil, donc à deux reprises. Et vous avez des redites. Regardez par exemple chapitre 23, verset 19. Des Ziphites montèrent vers Saül à Gibéa et dirent « David est caché parmi nous dans les endroits escarpés à Orcha, dans les collines de Hakila, au sud de la terre aride. » Bon. Eh bien, vous allez un peu plus loin, chapitre 26, verset 1er. « Les Ziphites se rendirent auprès de Saül à Gibéa et dirent « David est caché dans les collines de Hakila, en face de la terre aride. » Bon. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, en fait, vous avez des épisodes qui sont en double. Donc ça, c'est des problèmes rédactionnels. Vous avez des petites unités rédactionnelles. On raconte, il s'enfuit, il est caché, Saül arrive, il joue à cache-cache. Saül, alors à chaque fois, Saül loupe son coup. Parfois, David a l'occasion de tuer Saül, mais David s'y refuse. Il y a le chapitre 24, il y a l'épisode de la grotte à En-Gedi qui est très sympa. On ira à En-Gedi si vous voulez, si on fait un voyage en Israël, vous verrez, c'est super, il y a des petites grottes et tout, je peux vous montrer. Moi, je peux pas savoir quelle est la grotte exacte ou parce que en fait Saül va dans une grotte pour faire pipi et puis en fait David est caché au fond de la grotte et du coup David forcément a l'occasion de tuer Saül, mais il s'y refuse. Et donc en fait, vous avez une partie de cache-cache comme ça pendant plusieurs chapitres. Où David s'enfuit, Saül le poursuit, David se réfugie chez les ennemis. Alors des fois, il est obligé de faire semblant d'être allié aux ennemis. David fait semblant de se rallier à la cause des ennemis. Mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il fuit Saül. Et puis surtout, David qui se refuse à chaque fois à tuer Saül. Vous voyez, par exemple... chapitre 24, verset 7, que le Seigneur me garde de commettre une telle action, c'est-à-dire de tuer Saül, de porter la main sur mon Seigneur, sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Bah oui, parce qu'en même temps, Saül, il a reçu l'onction, donc bon, c'était peut-être une erreur du casting, mais n'empêche, c'est comme ça. Et puis pareil, de nouveau, chapitre 26, verset 11, jamais que le Seigneur me garde de porter la main sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur. Donc David, à chaque fois, se refuse de tuer Saül. Finalement, Saül va mourir. Alors, il y a un petit épisode au chapitre 28. Samuel est mort, hein, on nous dit, chapitre 28, verset 3. Le pauvre Samuel est mort, mais même après sa mort, il revient quand même, puisqu'en fait, Saül est panique. Il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Comment gagner la victoire, etc., etc. Il faut que je consulte Dieu, mais Dieu ne me répond pas. Tiens, je vais interroger Samuel. Et comme Samuel est mort, Saül va interroger une sorcière, la sorcière d'Endor. Alors, Endor, ce n'est pas la planète des Ewoks, hein, c'est la sorcière d'Endor, non? Dans la guerre des étoiles, ça vous dit rien. Ben, cela dit, c'est pas un hasard. Hein, si dans la guerre des étoiles, vous avez Endor, si vous avez un maître qui s'appelle Yoda, le verbe Yada, connaître, etc. Enfin bref, c'est pas un hasard. Hein, si dans la guerre des étoiles, vous avez tous ces mots bibliques. Bref, en tout cas, il va à Endor, il voit la sorcière. Et donc, il lui demande de faire revenir Samuel et d'interroger Samuel. Et Samuel n'est pas content. Samuel lui dit, pourquoi m'as-tu troublé, verset 15, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant remonter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, du s'éloigner de moi, etc. Bref, c'est la panique, c'est la crise, je ne sais pas quoi faire, je t'ai appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire, fin du verset 15. Et donc, verset 17, Samuel lui rappelle que c'est fini pour Saül. Le Seigneur a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Donc Samuel lui explique en disant « Désolé ». Alors il lui dit, verset 19, « Le Seigneur livrera aussi Israël aux Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. » Alors Samuel parle et Samuel est dans le séjour des morts. Donc quand il dit « Tu seras avec moi », ça veut dire que tu vas mourir. Quoi. Et de fait, c'est ce qui se passe. Au chapitre 31, eh bien, il y a la fameuse bataille, et malheureusement, les Philistins remportent la victoire, ils tuent Jonathan, le fils de Saül, et Saül lui-même, verset 4, dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi de crainte que ces incirconcis ne viennent me transpercer ou me brutaliser. » Il a peur de ce qui va lui arriver s'il se fait prendre par les Philistins, il pourrait se faire torturer, etc., etc. Il dit « Vaut mieux mourir ». Évidemment, celui qui est avec lui ne veut pas, alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. C'est théâtral, hein, vous voyez, c'est ça. Non, je préfère me suicider, il se suicide. Ah, il s'est suicidé, moi aussi, je me suicide, etc. Enfin bref, voilà, c'est très théâtral. Bref, tout le monde meurt, Saül, ses fils, tout le monde, bref, etc., etc. Et du coup, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les cadavres et découvrir Saül et ses trois fils qui étaient tombés au mont Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül, etc. C'est une tradition, on remporte, c'est le trophée. Et puis, au verset 12... ils prirent... Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent au verset 10 ? Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, ils clouèrent son cadavre sur la muraille de Beth-Shean. Beth-Shean, c'est un site qui est fabuleux. Pareil, il faut aller le visiter. On ira le voir si vous venez avec moi en Israël. Je vous emmènerai voir Beth-Shean, qui, en plus, est devenue une ville grecque fabuleuse. Il y a un théâtre qui fait 7000 places. Enfin bref, c'est gigantesque, c'est fabuleux. En tout cas, Saül est mort. Et c'est ainsi que s'achève le premier livre de Samuel. Donc, à la fin du premier livre de Samuel, Saül est mort. David, qui s'est refusé à tuer Saül, donc ils ont joué à cache-cache pendant un certain temps, il va enfin pouvoir être officiellement roi. Il a été oint il y a longtemps, mais dès le chapitre 16, mais il faut attendre le début du deuxième livre de Samuel pour que David, finalement, accède réellement au trône. Et là encore, ça va se faire en deux temps, mais ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, c'est la dernière séance avant les vacances. Bonne lecture à tous. Si vous avez des questions, j'ai quelques minutes pour y répondre. À la semaine prochaine.